Donc nous commençons les communications. Alors on a un petit jeu, on aime bien présenter qui va parler quand même. Hein. Les historiens géographes aiment bien savoir le contexte, l'auteur pour situer les choses. Mais je pense qu'en SVT aussi. En fait, Sébastien Catala vient de l'Académie de Montpellier. C'est quelqu'un qui baigne depuis longtemps dans les SIG, qui expérimente depuis de nombreuses années avec ses élèves à la fois des solutions nomades et sur le terrain. Et on est particulièrement content de l'accueillir parce que il va nous présenter aujourd'hui un petit peu un bilan de ce qu'il a fait avec un peu de perspective, parce que avec les années finalement ça donne de l'expérience et ça permet peut-être de capitaliser un certain nombre de choses, y compris pour des collègues qui commenceraient à utiliser les SIG, voir un petit peu les problèmes que ça pose sur le terrain et voir également les choses avec les années, c'est-à-dire comment on peut progressivement s'enrichir, enrichir son expérience, même si au début on est un simple débutant. Voilà, donc je laisse la parole à Sébastien. On essaie de tenir le timing, 20-25 minutes, ça serait très bien. Merci Sébastien.
Merci, pardon, merci Sylvain. Mais effectivement, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, afin de pouvoir partager ma modeste expérience. Alors c'est vrai que je baigne un petit peu dans les SIG depuis un certain temps dans l'Académie de Montpellier, puisque je suis à la fois enseignant d'histoire-géographie au lycée Jean Moulin à Béziers, et que depuis un certain temps, je participe à des actions académiques, voire nationales, autour de projets qui pour certains n'ont pas abouti, pour d'autres un peu plus. Et il est vrai que je commence à avoir un petit peu une vue d'ensemble de ce qui se fait. Ce travail se poursuit dans l'Académie de Montpellier, donc je fais une très légère parenthèse pour signaler que j'espère que vous viendrez tous très nombreux au mois d'octobre 2006, puisque nous organisons dans le cadre des Imagies, qui est une manifestation académique mais à vocation nationale et qui traite de l'image, nous organisons une journée spéciale dans le cadre donc de cette manifestation qui normalement se tient sur 2 jours, cette année elle se tient sur 3 jours. Et la troisième journée est exclusivement consacrée au SIG. Et nous organisons cette journée conjointement avec l'inspection pédagogique régionale, aussi bien en histoire-géographie qu'en SVT qu'en sciences physiques, et également donc avec l'université de Montpellier 3 qui est très en pointe, on va dire, sur la géomatique. Ce n'est pas la seule université à faire de la géomatique à proposer un cursus spécialisé, mais c'est vrai qu'on a un bon soutien. Et on a également sur Montpellier tout un tas de partenaires qui vont venir présenter des actions, notamment donc tout ce qui est INRA, etc. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse, ma petite publicité, mais je pense qu'on aura l'occasion d'échanger durant la journée sur ce type d'action. Voilà, alors ce que je vais présenter ici, c'est effectivement un bilan de quelques-unes, d'un certain nombre d'années de pratique en lycée, principalement en seconde et en première. Et donc j'ai sélectionné quelques exemples d'utilisation menés en classe, aussi bien en cours qu'en TPE, donc travaux personnels encadrés, ou également en module. Et puis, à la suite de ça, je soumettrai quelques-unes de mes réflexions, mais vraiment, j'espère que justement, au travers de la discussion d'aujourd'hui et des échanges que l'on aura, on pourra approfondir ce travail. Et mes réflexions seront vraiment n'auront pas la hauteur du lieu dans lequel nous sommes, très certainement. Voilà, alors le contexte d'abord dans lequel on évolue au lycée, c'est un établissement assez vaste, je vous ai mis quelques chiffres là pour que vous voyez à peu près de quoi il retourne. Et quand on veut faire des SIG dans un établissement scolaire, il est vrai qu'il faut avoir une certaine organisation, en particulier du matériel fixe ou nomade, et également des logiciels. Et parfois eh bien, des licences, puisque tous les logiciels que l'on utilise ne sont pas des logiciels gratuits, forcément. On a donc... alors, quand je dis du matériel pour les SIG, il faut voir que là, il y a des PDA, des GPS, des tablettes PC, et puis, évidemment, des ordinateurs plus traditionnels. Une salle de formation dédiée. Alors, c'est une salle de formation propre à l'établissement, mais également ouverte à l'académie. Autrement dit, quand il y a des formations à réaliser dans le cadre du PAF, cette salle est disponible. Et il faut savoir que dans le PAF, nous avons une formation chaque année qui tourne autour des SIG. Donc c'est assez particulier, hein, sur une journée. L'année prochaine, ce sera sur 2 journées. nous avons une formation dédiée au SIG, dans l'enseignement de l'histoire-géographie. Alors, quelques exemples d'usage, bon, vous les connaissez, mais voilà un petit peu ce que l'on peut faire, en tout cas, certaines des activités que j'ai pu mener autour des systèmes d'information géographique. Je vais en développer certaines. Je voudrais signaler également qu'on est dans l'établissement, on dispose d'un environnement numérique de travail, et cette ENT eh bien, facilite grandement les activités, puisque c'est un espace personnalisé dans lequel les utilisateurs peuvent retrouver des consignes de travail, par exemple, faire l'activité qui leur est proposée, et puis redistribuer l'information ou le travail dans un espace qui leur est propre. Alors, ça a donné lieu, par exemple, dans le cadre d'activités autour du Cap d'Agde, eh bien, eh bien, une récupération de documents, une intégration, des formulaires mis à disposition, des cartes élaborées, puis ensuite le tout renvoyé dans l'espace de travail collaboratif. Donc on ne néglige jamais. Ce qui est intéressant dans la géomatique aussi, c'est que ça vient amplifier un petit peu les usages TIS plus traditionnels. Alors, une des premières grosses activités que j'avais organisées dans l'établissement, c'était il y a quelques années maintenant, c'était dans le cadre des inondations qui avaient touché le Gard au mois de septembre 2002. Et à cette occasion-là, oui, j'ai mis 2003 d'ailleurs, vous voyez, et à cette occasion-là, on avait fait un travail sur la ville de Sommières en particulier. Donc c'était un travail qui s'était effectué durant le cours consacré aux risques naturels. On avait fait une véritable étude de cas sur Sommières, ce qui nous avait conduit à aller chercher de l'information simple, mais aussi de l'information géographique en ligne, sur des sites dédiés, à réaliser des cartes en ligne, avec des sites qui permettent effectivement de réaliser ce genre de documents. Et puis, on s'était également rendu dans la ville de Sommières pour faire des relevés GPS de la zone inondée. Donc, une quinzaine de jours après l'événement, on avait pu ainsi simplement, donc sur une zone précise de la ville, mais simplement en observant les murs tous encore humides, on avait pu déterminer à quel niveau se situait et à quel endroit de la ville s'était situé l'inondation. Et donc, on avait également fait un certain nombre de photographies. Et tout ça avait pu être ensuite, comme on le voit sur le document, reporté sur une carte et traité, analysé. Donc là, ça avait été un projet assez intéressant et qui, immédiatement, avait permis de faire comprendre, en tout cas, quels étaient les enjeux de ce genre de problèmes, hein, puisque là, typiquement, sur les inondations, il s'agissait de voir quelles étaient les implications des politiques, etc., etc. Quand on sait que la caserne de pompiers qui venait d'être réalisée a elle-même été inondée, évidemment, ça posait question, et c'est ce qu'on a cherché à comprendre au travers de ce travail. Un autre travail en TPE, donc durant l'année 2003-2004, a permis de s'intéresser aux déchets dans l'établissement scolaire. Donc pour cela, avec un groupe d'élèves et dans le cadre d'un TPE qui combinait géographie et puis mathématiques, on avait réalisé un certain nombre de relevés, toujours pareil, avec PDA, GPS, les élèves venant en dehors des heures de TPE, en général mercredi après-midi, faire des relevés. On avait d'une part géolocalisé toutes les poubelles de l'établissement. Donc là, vous avez une photo aérienne qui vous montre un peu l'établissement, hein, dont je vous indiquais la superficie, 12 hectares, donc c'est très vaste. Et vous avez là une dissémination assez importante des poubelles. Et ces poubelles sont typées, hein. On a des containers, des cendriers, distributeurs et autres. Enfin, pas des distributeurs, les poubelles marrons et ainsi de suite. Alors tout ça permettait déjà d'avoir une vision, une vue de l'implantation des poubelles. Bien. C'était la première étape. La seconde étape, elle a consisté à relever les types de déchets qui était que l'on pouvait observer au quotidien, et c'est, je vous rassure, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en plus, avec la tramontane qu'il y a chez nous, eh bien, on a des concentrations, des accumulations de dépôts d'ordures qui sont parfois assez impressionnants. Et bien là, ce qu'on avait cherché à faire, c'est à identifier un petit peu les dépôts d'ordures. Donc en établissement un classement, hein, donc ça avait été fait avec les élèves, on s'était fixé des règles simples. D'une part, quand on géolocalisait les déchets, eh bien, on identifiait trois catégories de déchets, le papier, les boîtes métalliques et puis le plastique, hein, les sacs plastiques, les petits papiers, etc. Et ensuite, on identifiait également le déchet isolé, le petit dépôt d'ordures et puis le gros tas. Et c'est ce qui fait qu'on a pu, comme ça, par des relevés successifs, constater qu'il y avait parfois des accumulations de déchets relativement importantes à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Et puis, on a procédé à un certain nombre de travaux, de traitement de l'information, et notamment on a utilisé zone tampon pour essayer d'identifier à quelle distance des poubelles se situaient les dépôts d'ordures. Donc on a choisi bien des distances allant de, hein, par les cercles concentriques successifs, allant de 3 en 3 mètres, et en estimant que bien dépasser 9 mètres c'était beaucoup trop et que ça nécessitait probablement qu'il y ait de nouvelles implantations de poubelles. Alors c'est un travail qui s'est fait également avec l'établissement, en particulier avec le chef d'établissement, puisque l'établissement est en restructuration et que des poubelles devaient être achetées. Donc le travail a été évidemment présenté. Et bon, je dirais qu'il n'a pas eu les suites que l'on aurait souhaitées. On n'a pas forcément mis les poubelles aux endroits qu'il fallait. Bon, en plus, il y a eu d'autres problèmes liés à la restructuration elle-même. Mais bref, ça a été un travail assez intéressant et qui a vu des élèves s'impliquer vraiment et être particulièrement actifs. Ce sont d'ailleurs des élèves qui se sont retrouvés au Conseil de la vie lycéenne, au CVL, enfin certains d'entre eux en tout cas, l'année suivante. Bien. Autre activité, toujours dans le cadre d'un TPE, et bien là, c'est avec un groupe d'élèves. Oui, j'ai oublié de dire précédemment, parce que ça n'apparaissait plus sur le document précédemment, on a aussi essayé de faire une corrélation entre les dépôts d'ordures et les principaux flux de déplacement des élèves, en tout cas de toutes les personnes qui circulent dans le lycée. La difficulté, c'est que, faute de temps, on n'a pas pu réellement faire une étude véritablement, enfin, scientifique, entre guillemets. Donc on s'est surtout basé sur des observations visuelles, on n'a pas vraiment fait de comptage ni quoi que ce soit, mais on a mis en évidence évidemment le fait que bien les zones les plus fréquentées étaient celles qui avaient le plus de dépôts d'ordures, en particulier une pelouse qui, lors des mois de printemps, début d'été, attire les jeunes, attire les foules, et là qui sont vraiment particulièrement sale. Bien, donc autre TPE qui a été intéressant à mener, à encadrer, c'est le TPE qui a consisté à voir si l'Orbe, qui est le fleuve donc, qui traverse la ville de Béziers, était pollué, en tout cas s'il était plus ou moins pollué en amont, en aval ou sur la ville même de Béziers. Donc pour cela, avec un groupe d'élèves, on a préparé un petit peu le travail et à nouveau, on a effectué une sortie terrain qui a permis d'effectuer des prélèvements, puisque cela combinait, on combinait ici géographie et physique-chimie. Donc on a fait des prélèvements, on a géolocalisé, toujours pareil avec PDH-GPS, on a géolocalisé les zones qui ont été les zones de prélèvement. Vous voyez sur la carte en bas à gauche, on a situé un petit peu ces zones de prélèvement, comme je vous l'ai dit, une en amont, une en aval, et puis une sur Béziers même, avec pour objectif de voir s'il y avait, si l'industrie bitéroise, qui n'est pas très importante, très développée, ou l'agriculture éventuellement, portait conséquence sur la pollution du fleuve. Alors ce travail a été très intéressant et il a même permis aux élèves d'aller à la rencontre d'associations, enfin de tous les acteurs, toutes les parties prenantes, je dirais, qui ont quelque chose à voir avec l'ORB. Et ça leur a valu d'ailleurs de réaliser une double page dans un quotidien local. Donc il y a une valorisation aussi de tout ce travail qui a été fait et qui a à nouveau montré que bien, la géomatique, en tout cas pour une part, est contribuer à favoriser l'esprit de citoyenneté. Donc voilà, alors ça a permis de travailler sur différentes cartes. Hein. Vous voyez qu'ici, on a identifié toutes les communes qui étaient traversées par le fleuve, en tout cas sur une partie, sur l'Hérault. Et on a fait d'autres cartes en profitant des images satellitaires mises à disposition avec l'accord entre le ministère et Spot. Donc on a utilisé voilà, ce genre de documents, le Corinne Land Cover également, voilà. Plan d'occupation des sols, voilà. Quelques images de situation. Alors par exemple ici, le tablette PC a été un outil qui a permis de faire des croquis. Il n'a pas servi à proprement à faire du relevé GPS, puisque là on avait un PDA pour cela, mais avec le tablette PC, bien, les élèves qui étaient en charge de ce matériel faisaient le croquis du lieu qui était étudié. Un exemple donc de travail de cartes réalisées avec en intégrant les données du Corinne Land Cover. Voilà, bon, même si on ne voit pas très bien la légende, mais on voit que ça a été organisé en tout cas, a priori. Bien. Alors, parmi les autres activités, je voudrais signaler le fait que cette année, on a réussi à équiper une classe entière de tablettes PC, c'est-à-dire que donc 32 élèves ont été équipés à l'année d'ordinateurs de type tablette PC sur lesquels, vous savez, on peut dessiner, donc dans le cadre d'un projet. Cela a permis de démultiplier, bien entendu, les activités, pas seulement en histoire-géographie, hein, dans d'autres disciplines, mais il est vrai qu'en histoire-géographie, on a amplement profité du matériel qui était également pourvu de logiciels. Et pour la partie SIG, on avait simplement mis Arc Explorer, qui est l'outil gratuit. On ne pouvait pas mettre les logiciels que l'on utilise dans le reste de l'établissement, en tout cas sur certaines machines, ArcView, qui est un logiciel payant pour lequel nous n'avions pas suffisamment de licences. Et avec ce matériel-là, plus cartes et croquis, etc., eh bien nous avons pu, et grâce aussi à l'ENT dont je parlais tout à l'heure, nous avons pu mettre en place des activités variées, qui ont été même jusqu'à la réalisation d'un devoir qui s'est fait entièrement sous forme numérique. Le devoir portait sur le cyclone Mitch. Je vous ai mis ici un extrait de travail d'élèves réalisé dans le cadre de ce travail. Donc les élèves ont été récupérés en début d'heure leur devoir. Ils ont réalisé sur leur tablette PC l'activité qui nécessitait de faire des allers-retours entre leur traitement de texte et puis Arc Explorer. Ils avaient des couches d'informations qui avaient été sélectionnées. Et c'était à eux à chaque fois d'aller chercher les informations, de compléter des tableaux, de réaliser des petites phrases de synthèse à partir de questions très simples qui leur étaient posées. Et à un moment donné, eh bien, il fallait qu'ils élaborent cette carte, voilà, qui pouvait prendre cette allure-là, et qu'ils intègrent cette carte dans leur devoir en la commentant. Et ensuite, le travail était renvoyé sur l'espace de travail, corrigé sur l'espace de travail, et à nouveau, qu'il aurait été remis à disposition pour qu'ils puissent avoir leurs notes et leurs corrections. Donc voilà, donc on a mis à profit là tous les outils TIS et on a mis en avant des pratiques qu'ils avaient acquis au fil de l'année et aussi profiter de toute leur expérience autour des SIG, hein, puisque évidemment ça n'était pas la première fois qu'ils utilisaient les SIG cette année. Un autre exemple que j'ai mis en bas à gauche, c'est l'exemple de l'implantation de casernes de pompiers. Donc sur une commune américaine, un travail leur a été proposé, alors là dans le cadre d'un cours, et l'objectif était de mettre en évidence les risques, donc là c'était sur les risques industriels, les risques que et en fait je vais reprendre pour dire que j'ai essayé d'utiliser quelque chose qui me convient bien, que j'aime bien faire, c'est le jeu de rôle. C'est-à-dire que je les mets devant une situation en leur disant, alors là c'était un jeu de rôle global, je n'avais pas affecté de tâches particulières à tel groupe d'élèves, etc. Mais c'était l'idée de dire, voilà, vous avez été sollicité par le maire de la commune qui vous demande de faire en sorte que toutes les garanties soient données à la population par rapport à d'éventuels risques chimiques, etc. Et donc avec un jeu de données relativement peu important, on a identifié quelles étaient les casernes de pompiers disponibles, quelles étaient les zones couvertes par ces casernes de pompiers, en admettant qu'ils pouvaient intervenir sur un rayon de quelques kilomètres. Et par rapport aux industries dites à risque, dangereuses, quelles étaient les zones qui n'étaient pas couvertes. Et finalement, quelle serait la proposition à formuler au maire en termes de création d'une nouvelle caserne. Voilà, donc c'était relativement simple, ça s'est fait en une heure de temps. Et ça a permis à nouveau à la fois de faire la géomatique, mais toujours avec un objectif qui était de responsabiliser, de réfléchir, de traiter l'information géographique. Ouais, ça, c'était quand même très important. Alors, je pourrais vous montrer aussi un exemple en live, mais je vois qu'il faut accélérer, donc je vais aller un peu plus vite. Quelques réflexions, une fois ces exemples présentés. C'est d'abord que, je l'ai dit, la géomatique s'inscrit dans le contexte plus large de l'utilisation des TIS. Et en cela, pratiquer la géomatique en histoire-géographie, mais en SVT, en SES, en physique et dans finalement presque toutes les disciplines, ça permet de favoriser l'utilisation des nouvelles technologies. Bien. De façon plus précise, il est clair que l'attrait de la géomatique est indéniable. On voit très bien les élèves lorsqu'ils sont en situation de faire une activité, s'emparer en quelque sorte des outils. Et vous le savez très bien, pour eux, ça n'est pas un problème que de découvrir un logiciel et les quelques fonctions qui vont leur permettre de faire le travail. Ça, c'est pas du tout un souci. Par contre, ils prennent vraiment même une certaine forme de plaisir à traiter l'information, à mettre en évidence certains phénomènes. Alors, ils n'y arrivent pas toujours, forcément, mais ils jouent réellement le jeu, en quelque sorte. Bien entendu, côté enseignant, ça permet de varier les activités. On a vu qu'on pouvait très bien faire du SIG, pas simplement dans le cadre d'un TP ou d'un module où on a les élèves en demi-groupe, mais on peut très bien le faire en classe entière à l'intérieur même du cours. C'est-à-dire que le cours, alors c'est vrai qu'en seconde, en première, ça se prête bien, le programme se prête bien à cela, puisqu'on fait des études de cas. On peut très bien, plutôt que de faire une étude de cas, on va dire un peu traditionnelle, avec quelques documents issus du manuel et puis quelques questions posées à la classe, etc., on peut tout à fait remplacer ce type de travail par une séance autour d'un projet géomatique. Le PBL, c'est le Project Based Learning, donc c'est le jeu de rôle dont je vous parlais, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, hein, je vous le disais, c'est mettre les élèves en situation, les mettre dans la peau d'un personnage, d'un décideur, d'un homme politique, d'un membre d'association militant pour telle ou telle cause, etc. Tout ça est très intéressant et puis marche bien. De façon très simple, ça marche bien. Alors forcément, ça renouvelle l'enseignement de la géographie, hein, pour en parler régulièrement avec des collègues et en particulier aussi avec les inspecteurs. On est tous ceux qui y croient, du moins. Mais je dois dire qu'à ce sujet-là, l'inspection pédagogique régionale à Montpellier est très favorable à ce type de d'enseignement, on admet tous que la géographie, l'enseignement de la géographie, qui connaît parfois des difficultés, qui a à faire face aux historiens, se trouve complètement renouvelé. De fait, hein, dans la mesure où on spatialise toute l'information, dans la mesure où on a systématiquement une visualisation d'un lieu, qu'on a qu'on travaille sur quelque chose qui se touche quasiment, on a les possibilités, et puis du fait de la variété également des types de projets que l'on peut mettre en place, on a forcément on fait bouger l'enseignement de la géographie traditionnelle. Alors, c'est vrai que un des éléments importants que j'ai pu relever au fur et à mesure de la mise en place de ces activités, de ces projets, c'est que bien, j'ai acquis une certaine façon de faire, hein, dans le travail de préparation et d'organisation de ces séquences. Donc j'ai résumé là en quelques points qui sont somme toute classiques, mais qui, si vous voulez, sont les points forts de la façon dont je travaille lorsque je réalise des activités géomatiques, hein, avec la définition d'une problématique, avec l'identification des jeux de données j'aurais besoin, etc. À ce sujet-là, je voudrais signaler que dans l'établissement, on a réussi à mettre en place quelques partenariats. Donc soit on récupère des données libres de droit, soit on travaille, c'est la raison pour laquelle, notamment cette année, on a travaillé sur un peu plus sur l'Hérault que d'habitude, c'est parce qu'on a mis en place un partenariat avec la DDE de l'Hérault, qui nous a mis à disposition les jeux de données que l'on souhaitait, enfin presque tous. Et ça a été pour nous une sacrée opportunité que de pouvoir travailler sur des données récentes et de qualité. Donc on a vraiment pu en profiter. Voilà, donc ensuite, bien évidemment, on va explorer ces données, on va les questionner, on va réfléchir à la façon dont les élèves vont pouvoir s'approprier ces informations-là, dont ils vont pouvoir eux-mêmes les utiliser, donc on élabore un questionnaire, etc. Bien entendu, pour terminer, la redécouverte de la sortie de terrain, qui est un élément, bon, quelle que soit l'activité, en dehors de la géomatique, la sortie de terrain, en particulier pour l'historien géographe, mais pas simplement, SVT et beaucoup d'autres, se révèle comme nécessaire, indispensable. Et avec la saisie avec le relevé, les relevés GPS que l'on peut faire sur le terrain et qui permettent d'élaborer finalement ses propres couches d'informations, de les traiter, etc., on redonne vie et on redonne une certaine place à la sortie. Voilà, et en bref, pour finir, deux idées, hein. Un, c'est qu'on favorise effectivement ce qu'on peut appeler le penser géographiquement. Et puis, forcément, on l'a signalé tout à l'heure, mais je crois qu'on est tous convaincus de cela. Cela, c'est l'SIG forme certainement l'outil qui permet le plus bien de favoriser l'esprit citoyen. C'est-à-dire de prendre en compte les enjeux, de simuler, de réfléchir aux impacts de telle ou telle décision, d'analyser. Et ben, de fait, on favorise largement l'esprit citoyen, sans doute plus qu'aucun autre outil, d'une part, et aucune autre discipline, en voyant la géomatique comme quelque chose de très large et très transversal. Voilà.
Tiens, une lourde tâche, c'est d'interrompre quand c'est... Mais oui, on a déjà pris presque une demande de retard. Merci beaucoup. Une question, si vous voulez, une, pas plus. On est désolé, mais on aura un temps d'échange tout à l'heure parce qu'on a déjà pris du retard sur le programme. Moi, simplement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des choses qui font écho aussi bien en géographie qu'en SVT, la sortie terrain, la gestion du risque, l'appréhension, la gestion du risque, c'est des choses qu'on a en commun entre historien géographe et naturaliste. Également, la démarche citoyenne, l'éducation, l'environnement. Hein, on est assez proche sur ces démarches-là. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? On a juste temps pour une question, je suis désolé, puis vous échangerez avec Sébastien si y a-t-il une question dans l'assistance ? Pas de questions ? Bon, on va aller encore plus vite alors. Une question ?
Je voulais pas prendre la parole parce que, mais bon, comme j'en ai une. Bon, ça fait bien écho à ce que disait Guy Ménant tout à l'heure, je pense, sur ce recueil de données. J'ai trouvé ça très, 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 très attendu. Alors, nous, en géologie, on dit pas sortie sur le terrain, on dit école de terrain. Comme ça, on montre bien aux parents, en particulier, qu'on va sur le terrain pour travailler. Mais ça, c'est juste une remarque. La question, elle porterait sur le cadre dans lequel sont faits ces travaux. C'est-à-dire que tu nous as parlé de TPE, tu nous as parlé de jeux de rôle, de projets. Et du coup, je me suis dit, le cours entre guillemets traditionnel d'histoire géo, est-ce que c'est un carcan tellement fort que l'on n'arrive pas à mettre en place ces projets dans les heures légales d'enseignement hors TPE?
Alors il y avait les exemples des TPE qui effectivement se font dans le cadre du TPE avec les 2 heures hebdomadaires, etc. Bon, ça c'est on va dire très précis. Par contre, je disais tout à l'heure que c'était ces projets ou ces actions étaient menées aussi bien dans le cadre de modules que de cours. C'est-à-dire que, et j'ai insisté à un moment donné pour dire que eh bien, l'étude de cas, donc le cours traditionnel en géographie, par exemple en classe de seconde, qui doit se faire essentiellement sur la base d'une étude de cas, donc plutôt que de faire 2 heures d'étude de cas traditionnelle, avec un document distribué aux élèves ou un appui sur le manuel, etc., eh bien, cette étude de cas est simplement remplacée, c'est-à-dire que le cours se fait à partir d'une carte réalisée ensemble. Donc pendant 2 heures de temps, on fait la carte et puis on met en place un certain nombre de questions. Mais à l'arrivée, eh bien, on a un document qui constitue le cours.
C'est-à-dire que ma question était, est-ce que tu penses que l'organisation des horaires en histoire-géographie est un carcan qui te rend difficile l'organisation des projets tels que tu veux les monter avec des jeux de rôle, avec des projets, avec des partenaires, des choses comme ça?
Pas forcément. Je dirais que la difficulté, c'est plutôt, et c'est vrai que ça soulève un problème, hein, mais la difficulté, c'est plutôt d'arriver à travailler avec des effectifs moins nombreux. C'est-à-dire qu'il est vrai que lorsque l'on travaille en demi-groupe, en particulier lorsqu'il faut faire des relevés à l'extérieur, etc., on travaille beaucoup plus facilement en demi-groupe. Et les horaires consacrés, les heures d'enseignement en demi-groupe sont très peu importants. Donc il y a là véritablement un carcan, on va dire, institutionnel, hein, lié à la façon dont le programme et dont les horaires sont organisés. En même temps, il y a toujours des possibilités de fonctionner différemment, c'est-à-dire qu'on peut très bien se mettre d'accord. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à mettre en place dans mon établissement. Mais on peut très bien se mettre d'accord pour que le cours qu'on va qualifier de magistral puisse se faire avec un professeur qui prendrait 2-3 classes différentes, ce qui permettrait de libérer des heures de demi-groupe. Et pour en avoir parlé avec l'inspection, je sais que celle-ci est plutôt favorable à ce type d'action, qui ne peuvent se prendre qu'au cas par cas dans les établissements qui le souhaitent. Encore faut-il que les collègues soient favorables. Donc là, on a toujours un peu plus de mal à modifier les choses. Voilà.